Radio Okapi.
À la présentation, Blaise Shindani Kambala. D'abord, les titres de ce journal. La MONUSCO a transféré jeudi sa base militaire de la localité d'Amé dans le territoire de Maragui au FARDC. La population demande à l'armée congolaise de préserver les acquis de paix obtenus durant ces 5 dernières années grâce à la présence des casques bleus, notamment les retours des déplacés et la relance des activités socio-économiques. Une bonne nouvelle pour les habitants du Grand Kasaï. L'université de Mbujimayi UM dispose désormais d'un laboratoire pour la détection des maladies infectieuses. C'est dans le cadre du projet Sentinelle RDC, lancé ce jeudi par le gouverneur des provinces devant plusieurs invités de marque. Vous suivrez en long, à la fin de ce journal, Dr Valentin Dissa Chintumba, recteur de l'université de Mbujimayi, qui est l'invité de ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée sur la radio de la paix. La MONUSCO a transféré jeudi sa base militaire de la localité d'Amé dans le territoire de Maragui au FARDC. Ce transfert est consécutif à l'amélioration de la situation sécuritaire depuis 2 ans dans la zone. La population demande à l'armée congolaise de préserver les acquis de paix obtenus durant ces 5 dernières années grâce à la présence des casques bleus, notamment les retours des déplacés et la relance des activités socio-économiques. Isaac Remoyope nous en dit plus.
Installée depuis 2020, la base militaire de la MONUSCO à Amé, située à 100 kilomètres au nord de Bounia, a contribué au retour progressif de la sécurité dans les territoires de Maragui et de Djougou. Grâce à la présence des casques bleus, de nombreux habitants ayant fui les atrocités des groupes armés ont pu regagner leur village d'origine. Les enfants, longtemps privés d'école, ont repris les chemins des classes. Les marchés communautaires et les activités agricoles, sanitaires et économiques ont également retrouvé leur rythme normal. Pachuto Maristella, directrice d'une école primaire proche de la base, témoigne.
Nous avions souffert aux mains des groupes armés. Avec les enfants, on a été toujours dans des brousses. Dès que ces casques bleus étaient arrivés, il n'y a pas de difficultés.
Parmi les autres acquis salués par la population figure la cohabitation pacifique entre les communautés locales, la mise en place des mécanismes de résolution des conflits, ainsi que la création des structures locales de paix. Pour les présidents territoriaux des jeunes, les FARDC qui ont reçu des nouveaux équipements doivent poursuivre le travail amorcé par la MONUSCO. Christian Ngabou.
Ils ont contribué pour la paix. Ainsi, aujourd'hui, nous avons reçu notre armée. Nous les appelons seulement à continuer avec cette même allure que la MONUSCO a déjà reçue. Donc protéger ses acquis.
Cependant, certains habitants expriment des inquiétudes après les retraits de la MONUSCO en raison des menaces persistantes des groupes armés encore actifs dans cette entité. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans la ville de Beni au nord Kivu pendant ces temps, les femmes et les autorités locales s'engagent à mieux faire connaître à la population la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée le 31 octobre 2000. Elles l'ont fait savoir le vendredi 5 décembre lors d'une journée de réflexion sur le contenu de cette résolution qui concerne les droits des femmes, la paix et la sécurité. Les participants estiment que la vulgarisation de cette résolution renforcera la participation active des femmes et des jeunes filles aux côtés des autorités locales à la résolution pacifique des conflits, la cohésion sociale et la consolidation de la paix dans la région de Beni. Marc Marofimbo, reportage.
Tout a commencé par l'évaluation des connaissances des femmes sur le contenu de la résolution 1325. Béatrice Assimoni, participante.
Il y a de ces femmes qui écoutent seulement parler de la résolution 1325, mais savoir les fonds de cette résolution, c'est pas toutes les femmes. Nous en parlons seulement, ça devient juste comme un slogan. Demander les piliers de cette résolution, il n'y a personne qui peut les développer, il n'y a personne vraiment.
D'où cet appel à la solidarité de certains participants. Les cas d'Espérance Kasi de l'ONG One Girl, One Leader. Pour elle, les femmes doivent se mettre ensemble pour fournir des efforts pour s'approprier cette résolution.
La lutte continue, pas seule, mais ensemble d'aller. Les organisations féminines vont se mettre ensemble pour organiser des activités, pour renforcer la génération 3 de la résolution 1325.
Les autorités comptent sur l'expertise des Nations Unies pour accompagner les femmes dans cette lutte. Jean-Paul Capitula, représentant le bourgmestre de la commune de Moulekera, à cette activité.
La MONUSCO serait la première structure à respecter les engagements pris par les autorités dans le cadre de la mise en application de la 1325. Et dès lors que cette vulgarisation commence par elle, nous pensons que et les autres piliers vont devoir être appliqués scrupuleusement à la lettre.
Cette activité a été organisée à l'occasion de 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles et basées sur les genres. Beni, Marc Marufimbo, Radio Okapi.
Une bonne nouvelle pour les habitants du Grand Kasaï. L'université de Mbujimayi UM dispose désormais d'un laboratoire pour la détection des maladies infectieuses. C'est dans le cadre du projet Sentinelle RDC, lancé ce jeudi par le gouverneur de province devant l'évêque du diocèse de Mbujimayi, le conseiller du chef de l'État en charge des questions religieuses, de la ministre de l'Issue, des professeurs d'université de la Belgique et de la République démocratique du Congo, des invités ainsi que de plusieurs étudiants. Des avec Esther Dalafina.
Le projet Sentinelle RDC, qui sera implémenté durant 5 ans, est le fruit d'un partenariat entre l'université de Mbujimayi et celle de Louvain en Belgique. Il consiste en la mise en place d'un système de surveillance pour la résilience et la riposte des maladies infectieuses émergeant en milieu communautaire en RDC. Ce projet est financé par l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur du Royaume de Belgique. Le professeur d'épidémiologie à l'université catholique de Louvain, venu à Mbujimayi, a indiqué que ce projet a pour but de mieux se préparer face aux futures pandémies.
Le but de ce projet, c'est de trouver des solutions, surtout pour la population. Si on parvient à détecter des virus, des maladies émergentes ici, Mbujimayi peut protéger le monde.
D'après Dr Valentin Dissaché, recteur de l'université de Mbujimayi, cette première année est consacrée à l'implantation de ce laboratoire qui va également aider les chercheurs à analyser les échantillons des maladies qui présentent des nouveaux agents infectieux.
Il va y avoir des unités mobiles. Les chercheurs, les laborantins peuvent se déplacer dans le milieu rural pour mener des prélèvements pour les besoins de leurs études, pour les besoins de la surveillance épidémiologique.
Signalons que ce laboratoire va fonctionner au centre hospitalier universitaire Notre-Dame de l'Espérance. Esther Dalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Ce journal se poursuit dans la province du Haut-Katanga où des patients victimes de la pollution de l'environnement attribuée à l'entreprise minière CEDEM sont consultés par les médecins de l'hôpital Sindwe à Lubumbashi depuis mercredi dernier. L'objectif est de vérifier l'impact des produits toxiques auxquels ils ont été exposés lors de l'incident survenu sur les sites de l'entreprise CEDEM. Des explications avec Paulin Monanga.
Des consultations des malades se font sur les sites du quartier Kasapa, lieu où est située l'entreprise à capitaux chinois Congo Dongfang Mining CEDEM. Cette entreprise est pointée du doigt comme étant responsable de la pollution de l'environnement il y a quelques semaines. Par après, les malades sont acheminés à l'hôpital général de référence Jason Sendwe pour des examens approfondis dont les scanners, la radiographie, l'échographie et l'ECG. Boupe Chamala est chef du quartier Kasapa. D'autres personnes ne sont pas encore arrivées. Nous continuons avec la sensibilisation. Tous ceux qui nous suivent et nous entendent doivent savoir que nous sommes non loin de la prison centrale de Kasapa au niveau du terrain de basket. C'est là où se passe la consultation. On prélève le sang et on envoie les personnes à l'hôpital Sendwe faire l'échographie et d'autres examens. Pour rappel, en début du mois de novembre, un bassin de rétention des rejets miniers de l'entreprise CEDEM situé au quartier Kasapa à Lubumbashi a cédé, provoquant un déversement important des eaux contenant de l'acide provenant de l'usine de cette entreprise. C'est notamment la contamination de la rivière Lubumbashi qui a été à la base de la mort des espèces aquatiques. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Santé encore, au Nord Kivu, au moins 7000 enfants vaccinés contre la rougeole dans l'aire de santé de Ngungu. Nous sommes dans le territoire de Masisi où sévit une flambée des cas de rougeole depuis le mois d'octobre dernier. Le docteur Jano Migisha, médecin responsable du centre de santé de référence de Ngungu, se félicite de la mobilisation de tous les acteurs et appelle à une mobilisation contre les autres épidémies, notamment la polio et le choléra. Il a été joint par Pedro Migo.
Grâce à l'aide du gouvernement, nous avons reçu les kits, nous avons reçu les vaccins et nous avons vacciné presque toute la population cible. Pour l'aire de santé de Ngungu, nous avons vacciné à 126% selon les cibles attendues. Les aires de santé environnantes et aussi ont vacciné à plus de 100%. Nous avons traversé une période de challenge compte tenu que nous avons reçu les vaccins un peu tardivement et vous savez que les routes ne sont pas praticables, la situation sécuritaire sécuritaire ne permet pas ce que les vaccins voyagent facilement, mais quand même, le vaccin s'est bien passé. Nous félicitons la population d'avoir répondu présent en ramenant les enfants à la vaccination. Le défi reste énorme parce que, à part la rougeole, il y a la polio qui existe encore, il y a la paralysie flasque aiguë qui existe encore, il y a des cas de choléra qui existent encore. Donc, nous pensons toujours et nous tendons la main au gouvernement afin que tous les enfants soient vaccinés.
Pourquoi prendre les armes pour une question qu'on peut régler par les dialogues? C'est la question que l'artiste Makel Sambo, musicien de Goma, adresse aux acteurs de la région des Grands Lacs depuis plus de 20 ans. Dès 2003, l'artiste a dénoncé les conséquences de la guerre à travers son titre Pacification, une chanson qu'il vient d'ailleurs d'actualiser cette année pour inviter les autorités à travailler pour la paix et la cohésion des peuples. Il salue la signature de l'accord de paix à Washington jeudi et souligne toutefois que la population de l'Est attend les retombées concrètes de cette signature. Pour lui, cet accord doit servir de leçon aux dirigeants qui ont attendu des années de guerre avant de se mettre finalement autour d'une table. On écoute Makel Sambo au micro de Rosalie Zawadi.
Fallait-il attendre tous ces temps pour enfin se mettre ensemble? Fallait-il attendre qu'il y ait des morts, des dégâts matériels? Fallait-il attendre que nous puissions enterrer nos enfants, nos femmes, tués par des bombes tombées sur nos maisons? Fallait-il attendre que ces gens meurent pour enfin se mettre ensemble? Il fallait se mettre ensemble à partir de Bunagana, quand la guerre était encore à la porte de notre pays. Pour des petites questions, pour des questions qui peuvent se résoudre par le dialogue, pourquoi utiliser les armes? Et ces gens qui sont morts, est-ce que ces accords vont les ressusciter? La guerre nous amène la pauvreté. La guerre nous engendre des veufs, des orphelins, des veuves. La guerre n'est pas bonne. Faut toujours recourir au dialogue avant de recourir aux armes. Nous n'attendons que la concrétisation de ce qu'ils ont signé. Nous attendons que la guerre s'arrête, que les armes se taisent une fois pour toutes.
Dans le même registre, la plateforme politique Front Anti-Dialogue portée par le parti Congo Positif qualifie d'acte politique majeur l'enterrement jeudi dernier à Washington, aux USA, de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous l'égide du président des États-Unis d'Amérique. Au cours d'un point de presse organisé ce vendredi 5 décembre à Kinshasa, le président de Congo Positif et coordonnateur du Front Anti-Dialogue estime que cet enterrement par les présidents Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda met fin à des années de confusion entretenues par certains milieux politiques et diplomatiques pour lesquels la crise de l'Est et de la RDC serait un simple conflit interne. Dieudonné Nkishikazali appelle toutefois à la vigilance à tous les niveaux, tout en estimant que le dialogue national n'est pas nécessaire. On l'écoute au micro de Grace Mvuezolo.
Le Front Anti-Dialogue, tout en prenant acte de l'entérinement de l'accord, affirme qu'il ne fonde aucune confiance sur la bonne foi du Rwanda quant à son exécution naturelle et loyale de cet accord. L'histoire commande la vigilance. L'histoire commande la fermeté. L'histoire commande la préparation permanente de la défense du territoire national. Les fronts anti-dialogue estiment que l'application de l'accord de Washington ne laisse aucune place à des dialogues politiques internes visant à résoudre une agression venue de l'extérieur. La solution au conflit est populaire. La solution viendra du peuple. La solution au conflit est militaire. La solution est diplomatique et sécuritaire et non politique.
Et puis le parti politique ANC, Alliance des Nationalistes pour un Congo émergent, félicite le président de la République démocratique du Congo pour la signature d'un accord de paix avec le Rwanda jeudi 4 décembre à Washington DC. Dans une déclaration faite vendredi 5 décembre, le parti cher à Norbert Basengezi Kantitima parle d'un geste fort en faveur de la stabilité régionale, saluant le courage politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Par ailleurs, l'ANC sollicite l'application de la résolution 2773, la mise en application de cet accord et un plan du type Marshall pour la reconstruction de la RDC. Suivez un extrait de cette déclaration lue par Maître Jacques Kabe Kankisingi, secrétaire général adjoint en charge de questions juridiques et porte-parole du parti.
Par ailleurs, l'ANC sollicite l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la mise en application de cet accord, la redynamisation de la communauté économique des pays des grands lacs, CPG en sigle, et un plan du type Marshall pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. Comme pour la France et l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi devraient désormais, à partir de cet accord historique, fumer un calumet de la paix et revenir à la vie d'avant 1993. Enfin, l'ANC félicite et encourage une fois de plus son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour sa diplomatie active afin de faire aboutir le processus de Doha avec l'AFC M23 sous l'égide du Qatar et offrir ainsi aux Congolais l'occasion de passer les fêtes de Noël et de bonne année 2026 dans un Congo uni, souverain et prospère.
Actualité internationale.
Depuis le début de la guerre au Soudan voisin en avril 2023, le Tchad fait face à un afflux de réfugiés sans précédent. Pour intervenir sur le terrain, les agences des Nations Unies doivent presque systématiquement recourir à des escortes armées censées sécuriser leurs déplacements, à la différence des autres ONG qui, elles, se déplacent sans escorte. Mais dans un contexte de réduction drastique des financements occidentaux, le coût de ces escortes grève l'action humanitaire. Les agences sur le terrain plaide pour plus de flexibilité de la part des autorités tchadiennes.
L'invité.
Notre invité est le docteur Valentin Dissa Chintumba, recteur de l'université de Mbujimayi. Il nous parle du nouveau laboratoire de détection des maladies virales inauguré jeudi dernier à Mbujimayi. Docteur Valentin Dissa Chintumba s'entretient avec Esther Ndalafina.
Docteur Valentin Dissachi, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste Ndalafina.
On a présenté le projet Sentinel RDC. Quelles sont vos impressions?
C'est un sentiment d'abord de grande joie, parce que là nous vivons tous un grand accomplissement pour notre communauté. Ce projet, qui est né par la volonté de certains chercheurs et de l'université de Mbujimayi et des universités belges, notamment l'université catholique de Louvain, ce projet aujourd'hui, il est baptisé aujourd'hui est appelé à évoluer pas à pas pour son accomplissement, pour le bien-être de notre communauté.
Comment le matériel va fonctionner?
Les matériels vont fonctionner en deux sites. En fait, il va y avoir un laboratoire, le laboratoire qui sera implanté au centre hospitalier universitaire Notre-Dame de l'Espérance. C'est le centre hospitalier universitaire de l'université de Mbujimayi. Mais tout ne sera pas fixe au laboratoire. Il va y avoir des unités mobiles, c'est-à-dire que les chercheurs, les laborantins peuvent se déplacer aux différents endroits dans le milieu rural pour mener des prélèvements pour les besoins de leurs études, pour les besoins de la surveillance épidémiologique. C'est-à-dire qu'il y a des maladies qui peuvent être encore à une phase méconnaissable par tous, mais sur le plan de laboratoire, on peut déjà les détecter. C'est ça le rôle même Sentinel. On surveille, on détecte très tôt avant qu'une maladie grave ne prenne des allures d'épidémie, sinon de pandémie. En fait, notre laboratoire, avec son équipe de chercheurs de haute qualité, va devoir fonctionner pour tirer l'alarme pour que nous ne tombions pas malades à grande échelle.
Les intrants sont-ils disponibles pour la détection ou ça peut commencer maintenant et puis on commence à prendre qu'il y a rupture des stocks?
Non, c'est très bien organisé, comme présenté par le coordonnateur sud du projet, qui est notre secrétaire général chargé de la recherche à l'université de Mbujimayi. Il va y avoir une première année où le laboratoire s'installe avec les ressources humaines, avec les différents équipements et devient fonctionnel pour les prélèvements. Ça, ce sera la première phase, la première année.
Quelle est l'importance donc de ce matériel?
On peut d'abord dire que c'est un matériel qui va permettre d'identifier les agents infectieux réputés dangereux. C'est-à-dire qu'il y a des microbes, des virus particulièrement, qui peuvent causer des maladies. Et nous tous ici, nous pouvons penser que ce n'est que la malaria. Il y a des cas où tous les jours, le malade fait de la fièvre pendant plus de 2 semaines, pendant 1 mois, et les moyens de diagnostic manquent, particulièrement pour ce qui est des agents viraux. Mais avec ce laboratoire, il sera possible, par une approche qu'on appelle métagénomique, c'est-à-dire qu'on scanne, on recherche plusieurs agents infectieux à la fois. Quand nous faisons, par exemple, la goutte épaisse, habituellement, nous cherchons une affection, nous cherchons la malaria, d'autres encore associés. Mais avec cette approche-là, il est possible, à partir d'un prélèvement, d'un échantillon, rechercher d'un coup plusieurs virus. Ce qui fait que pour certains cas de fièvre inconnue, la possibilité d'avoir un diagnostic, il est possible maintenant de s'organiser par rapport à la prévention. Parce que quand nous parlons de malaria, il y a beaucoup d'autres maladies virales qui peuvent se présenter comme une malaria. Alors si on n'investit pas suffisamment, on peut penser que c'est juste une malaria qui résiste au traitement, alors qu'il s'agit d'autres affections. Et quand il peut s'agir d'affections qui évoluent comme une épidémie, éventuellement comme une pandémie, être avisé va permettre d'avoir des mesures de riposte appropriées au niveau de la province, au niveau du pays. Alors, si nous nous organisons avec notre laboratoire sentinelle, c'est-à-dire que lorsque la maladie commence, elle est dangereuse et tout de suite on met des barrières. Ça permet donc de protéger des vies, éventuellement en milieu rural. On va protéger aussi le milieu urbain et même le niveau international. Mais ajoutons que même si c'est un nouveau virus, jusque-là inconnu, avec ce laboratoire, il est possible de dire, attention, là, il y a un nouveau virus. Donc c'est vraiment une grande réalisation. C'est comme ça que nous disons que cette grande réalisation doit être une occasion aussi pour former d'autres. Et donc, nous avons le devoir de former les plus jeunes, d'augmenter le nombre de compétences en province. C'est là qu'intervient l'établissement d'une école doctorale, ici à l'Université de Mbujimayi particulièrement. Parce que si la structure école doctorale n'est pas là, ça va être difficile de faire naître de nouveaux docteurs. On soit en mesure de pérenniser l'activité avec de nouvelles compétences.
Docteur Valentin Dissachintumba, merci.
Merci beaucoup, madame.
C'était notre invité, docteur Valentin Dissachintumba, qui s'entretenait avec Esther Ndalafina. Et c'est ce qui met fin à notre grande édition du journal Parler de la mi-journée, qui a connu la coordination et la supervision éditoriale de Richard Junior Kamunga, et la mise en onde était assurée par Jean-Claude Salamona Makengo Ntswalo. Ce journal est à suivre sur toutes les plateformes digitales de la Radio de la Paix, ainsi que sur son site internet www.radiocapi.net.